Bonjour Guillaume.
Bonjour Pierre.
Nous allons parler aujourd'hui d'un livre de la Bible, c'est les Actes des Apôtres. Or, moi personnellement, je trouve que c'est un livre très agréable à lire jusqu'au bout. C'est attrayant, c'est intéressant. Effectivement, c'est vraiment quelque chose de très vivant. On pourrait presque le voir sous une bande dessinée. Et il y a évidemment des aventures, des rencontres, des séparations, des retrouvailles, des emprisonnements, des rebondissements, des voyages, des naufrages, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose d'attrayant. Mais surtout, évidemment, je ne nie pas son importance, parce que ce livre, c'est l'histoire inspirée de l'Église, et qui va nous présenter le début de la chrétienté. C'est évidemment, après, évidemment, le départ de Jésus, bien sûr. Alors, ces Actes des Apôtres, on dit que c'est Luc qui serait l'apôtre, qui serait, pardon, l'écrivain, l'auteur de ce texte. Est-ce qu'il était seul? Est-ce que c'était lui? Est-ce qu'ils étaient à plusieurs? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Et ensuite, autre question que je peux poser, c'est quels en étaient les destinataires? Je suppose des églises, mais peut-être vous avez des précisions. Et puis, dans quelles conditions il a été rédigé, comment ça s'est fait, à quelle date, est-ce que Pierre et Paul étaient encore vivants, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez les dates. Nous écoutons.
On a un témoignage qui est assez intéressant, c'est celui d'Irénée, Saint-Irénée, qui a écrit, qui était évêque de Lyon entre 170 et 205, et qui a écrit un gros livre qui s'appelle « Contre les hérésies », qui fait environ 1000 pages, enfin ça dépend de l'édition, et dans lequel il dit explicitement que donc Marc était le secrétaire de Pierre et que Luc était le secrétaire de Paul, et qu'ils ont écrit ces évangiles à peu près au moment où Pierre et Paul sont morts. Ce qui citerait en fait, ce qui donne rapidement, puisque Irénée donc écrit vers 180, qui citerait à la fois, mettons, l'auteur, hein, donc Luc comme quelqu'un qui est le secrétaire de Paul, donc qui est venu après les apôtres, hein, qui ne figurait pas parmi les apôtres, puisque Paul, au moment des apôtres, était un juif qui était comment dire, opposé aux chrétiens et qui les persécutait, et on voit que Paul se convertit dans le livre des Actes avec son chemin de Damas, expression qui restait célèbre, et seulement au chapitre 9 du livre des Actes. Donc Luc est certainement venu rejoindre la troupe, et on peut voir dans l'explicite du livre des Actes un moment donné où Luc va utiliser le terme « nous » plutôt que le terme « il », ce qui fait qu'il semble que ça parle de la rencontre, peut-être, de Luc avec les autres, ou avec Paul, mais une rencontre qui n'est en tout cas pas explicite. Alors, voilà pour l'auteur. Luc, avec l'expression au chapitre 1er et au verset 19, dans leur propre dialecte, semble être quelqu'un qui n'est pas juif. Hein, dans leur propre dialecte. Voilà. Intéressant d'entendre ça dans la bouche de Pierre, puisque c'est Pierre qui parle, mais c'est Luc qui le rapporte avec cette expression « dans leur propre dialecte ». Alors que ce n'est pas le dialecte de Pierre, puisque Pierre est juif et parle araméen de l'époque. Donc intéressant d'entendre ça. On a aussi une autre expression dans la lettre de Paul aux Colossiens et au chapitre 4, une expression qui est très touchante, où il parle de Luc comme étant le médecin bien-aimé. Alors voilà,
C'est vrai que la tradition le désigne toujours comme médecin.
Luc 4, verset 14, hein, voilà quelque chose qui est établi. Et Colossiens, on pense que ce sont des lettres de Paul qui ont été écrites pendant la captivité de Paul à Rome, entre 60 et 62. Alors il a été relâché en 62, il est réemprisonné en 64, et en principe il est décapité vers 67. Et Pierre crucifié la tête en bas. Et donc, Colossiens, c'est donc entre 60 et 62. Et donc là, Paul connaît déjà Luc. Hein, voilà, donc ça permet de situer un peu à la fois le personnage et puis l'histoire. Et alors, vous parlez de destinataire. C'est intéressant de voir que dans l'Évangile selon Luc, comme dans les Actes des Apôtres, Luc écrit à Théophile. Théophile, Théo, c'est Dieu. Et Phile, c'est celui qui aime. Donc, est-ce qu'il écrit... Ah, il dit très excellent Théophile dans l'évangile, dans son évangile. Est-ce qu'il écrit à quelqu'un qui fait partie de l'autorité? Ou est-ce qu'il dit ça comme quelque chose de symbolique, avec un écrit général, hein, oui. Un peu comme Calvin a fait en écrivant François Ier. Bon, il écrit François Ier pour l'institution chrétienne, mais c'est quand même un écrit général qui est adressé au roi, mais qui est fait pour que tout le monde le dise. Et donc, voilà, il peut y avoir différentes pensées à cet égard. En tout cas, comme vous l'avez dit, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont là pour montrer, en fait, l'approche du roi, du Messie qui était là pour venir régner, mais qui a été rejeté, et alors que l'évangile de Jean est plutôt là, écrit, mettons, une quarantaine, 30, mettons 30 ans après, 30-40 ans après, et pour montrer d'autres perspectives, Jésus, fils de Dieu, le salut, la vie éternelle, etc., la lumière, les ténèbres, donc l'évangile de Luc a une portée très pratique du Messie qui vient, et les Actes des Apôtres, comme vous l'avez dit, montre cet événement de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans les croyants, et donc marque une transition tout à fait claire.
Oui, alors en fait, on remarque, si on se penche un peu sur les textes, trois épisodes. Il y a dans l'Ancien Testament Dieu qui est là, parmi les hommes, et il suit son peuple, il l'éduque. Ensuite, il y a dans le Nouveau Testament, Dieu est avec nous par l'incarnation du Fils. Et on a l'impression que dans les Actes des Apôtres, eh bien cette fois, c'est l'Esprit qui s'installe. Parce qu'effectivement, vous l'avez déjà dit, on va commencer les Actes des Apôtres par la Pentecôte. Et c'est l'Esprit qui vient se manifester. Or, l'Esprit va ouvrir les yeux, les cœurs aussi, bien sûr. Il va faciliter la compréhension des choses. Il traite donc des œuvres de Dieu dans un nouveau monde, dans le cœur de l'homme. C'est ce travail de l'Esprit donc, que les apôtres, les disciples, vont avoir à faire, guidés donc par l'Esprit. Bien sûr, mais aussi dans les populations juives et non juives. Ça va évidemment avoir des répercussions donc, sur ces populations. Et c'est donc un grand moment, évidemment, donc, de l'Église primitive, parce que je crois qu'on assiste là à la création de l'Église. Et on va suivre au fur et à mesure donc, la croissance, l'organisation de l'Église. On va avoir un éclairage sur les épîtres, qui sont un peu la doctrine, mais là ça va être vécu, effectivement, ça va être beaucoup plus concret, et on va être documenté, en fait, sur la façon de comprendre, de voir, de faire et de régler certaines situations. Et puis même, on remarque, géographiquement, il y a une évolution. On part, effectivement, donc, de Jérusalem, hein, et puis petit à petit, ça va se répandre en Israël, et puis on quittera Israël, et on fera le Moyen-Orient, et on arrivera jusqu'à Rome. Donc, on en est là, et c'est le départ de l'Église. Alors l'Église, c'est un projet de Dieu, mais peut-être que ce n'est pas Jésus lui-même qui a créé, disons, le fondateur de l'Église, mais c'est plutôt l'union de Dieu et de son peuple depuis toujours, l'Église. Hein. C'est l'histoire du peuple juif avec ses alliances. Mais l'échec de ce projet, hein, de rassemblement des Juifs et des païens, comme auraient voulu et auraient souhaité Dieu et Jésus-Christ, est la première difficulté dès le début. Parce que les Juifs sont préoccupés plutôt pour la restauration du royaume d'Israël et négligent l'idée du royaume de Dieu. Donc là, ça va être la première difficulté, évidemment, pour l'équipe, si vous voulez, des apôtres, de faire leur travail et de répandre la bonne nouvelle.
À cet égard, le problème des, si vous voulez, en catégorie de personnes, il y a les juifs, il y a les judéo-chrétiens, il y a ce qu'on appelle les prosélytes juifs, qu'on voit au chapitre 2 des Actes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, mais qui sont devenus juifs en tant que religion, mais pas en tant que nationalité,
Oui,
et il y a les chrétiens du monde païen,
les
et puis il y
gentils.
a les païens.
Oui.
Hein, le gentil, si vous voulez. Et donc, ça fait quand même cinq catégories de personnes, et on trouve un peu de tout dans ce livre des Actes. Alors, les Juifs, bien sûr, eux, ne croient qu'au royaume, c'est-à-dire Israël
Une
étant
nation.
une nation dans laquelle Dieu doit venir habiter.
Oui, c'est le
Et ils
peuple
disent que
choisi, faut pas
Jésus,
l'oublier.
c'est pas le Messie. Mais les judéo-chrétiens, ils ont quand même cette problématique. Et la preuve, comme vous l'avez dit, c'est qu'au chapitre 1er, les disciples disent, est-ce en ces temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? Et je crois que il faut vraiment prendre ce livre des Actes comme ce qui ouvre sur ce que je pourrais appeler la grande transition de l'Église, jusqu'à ce que le royaume revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire que l'Église, c'est un peu, pendant ce temps des nations, pendant ce temps où les nations dominent, c'est un peu tous ces chrétiens disséminés dans les nations qui font que les royaumes ne se corrompent pas trop vite.
Oui.
Mais si vous voulez, il n'y a pas de projet absolu de Dieu. Le projet absolu de Dieu, c'est quand il est là, et quand il sera là, alors il y aura, comme dit le psaume 2, un règne de fer, où le roi sera là pour montrer clairement à tous ses sujets ce qu'il doit faire. Et dans ce livre des Actes, on a ces judéo-chrétiens qui sont un peu inquiets, qui ne savent pas trop ce qu'il faut qu'ils fassent. On a Pierre, par exemple, qui est celui à qui Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume.
Oui.
Et Pierre s'est appelé l'apôtre des Juifs, et il est allé parler aux Juifs. Et Paul est l'apôtre des nations, c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Galates, par exemple, au chapitre 2. Et Paul est celui qui, à la suite de Pierre, va parler aux nations. On pourrait dire par exemple qu'il y a une structure un peu invisible dans le livre des Actes, qui est la première partie jusqu'au chapitre 9, il y a le ministère de Pierre, et ensuite la
Après celle de
deuxième
Paul.
partie du chapitre 10 au chapitre 28, le ministère de Paul.
C'est vrai.
Et donc en fait, on a, comme vous l'avez dit, géographiquement, ça agit en Israël, mais aussi ça agit après dans les nations, et ça ouvre au ministère de Paul.
Alors, on va voir quelques versets, on ne peut pas les voir tous, même si tous ont de l'intérêt. Donc, le point essentiel, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui va effectivement donc être le don de l'Esprit. Alors, on dit que les apôtres sont rassemblés au Cénacle, mais le vent se fait entendre par tous, tout le monde entend le vent, mais on dit que les langues de feu, eux, viennent individuellement sur chacun des 12 apôtres et peut-être aussi des femmes qui étaient là, dont Marie. Alors, quel était leur état d'esprit depuis l'ascension, depuis que le Christ était parti, et puis la symbolique de ce vent qui se fait entendre par tous et de ces flammes qui se divisent, ça m'a toujours intrigué, sur la tête des participants, des gens présents.
Alors, en premier lieu, leur état d'esprit, Jésus les avait avertis. Dans les évangiles, il leur avait dit, vous attendrez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est donc quelque chose qui montre l'attitude de ses disciples. Il est au chapitre 1er, ils sont montrés dans cette chambre haute, hein, la chambre haute, quelque chose qui est peut-être réel mais aussi symbolique, où on s'élève, où on attend,
On est près du ciel.
on est près du ciel. C'est pas qu'on se réfugie, mais on est quand même à part et on attend. Donc je crois qu'il y a une attitude qui est belle, qui est positive, qui est constructive. Ils sont ensemble, ils sont. Voilà, il y a des expressions, verset 14, tous du chapitre 1er, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. C'est beau d'être dans cette attente et finalement de voir ce qui se passe. Quelle est la symbolique du vent, vous me dites? Alors, je lis au chapitre 2, il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, c'est très difficile de savoir exactement ce que ça peut vouloir dire, mais il y a quelque chose qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est que ce son, mais qui est assimilé à un souffle, donc à un vent, est montré comme remplissant toute la maison où ils étaient assis. J'entends dans cette expression que chacun est concerné, que chacun est touché, que chacun est immergé par oui. cet événement qui arrive. Le vent, Jésus en avait parlé à Nicodème au chapitre 3, hein, le souffle, le vent, et il dit le vent souffle où il veut, il en est de même de l'esprit. Et donc,
ça quand, peut être l'image de l'esprit.
C'est une image de l'esprit, et au verset 4, il est dit, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint.
Ils sont secoués et ils sont remplis de l'Esprit.
Dans ce chapitre 2, on continue à lire et on voit au verset 33 que Jésus a été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. J'entends dans ce passage que Jésus est monté, c'est l'ascension, et il reçoit quelque chose. Lui étant monté, donc la présence de Dieu sur la terre, comme vous l'avez dit dans l'introduction, Dieu était présent dans l'Ancien Testament, Jésus est présent pendant qu'il est là, et puis Jésus s'en va, et alors il y a l'Esprit de Dieu qui vient. Et donc c'est Jésus qui donne l'Esprit aux chrétiens, et le vent est là pour représenter l'Esprit.
Et les flammes ?
Et les flammes. Alors les flammes, Jean-Baptiste en avait parlé de ce... au début de son ministère, on voit ça dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, je crois versets 10 à 12, Jésus avait prévenu, Jean-Baptiste avait prévenu que Jésus baptiserait d'esprit et de feu. Et il avait dit, fera rentrer le grain dans l'air, et il brûlera la balle, c'est-à-dire l'enveloppe du grain, au feu inextinguible. Oui. Et alors le feu, c'est un signe de jugement. Le feu, c'est un signe de sanction, de condamnation, de purification. Et ici, pour moi, c'est absolument clair que les langues de feu sont un signe de jugement. Sur qui? Eh bien, sur la nation qui devait être le porte-parole de Dieu, Israël. Et c'est un signe de jugement qui va dire, alors Israël n'est plus le serviteur par lequel Dieu veut parler, mais il ne l'est plus provisoirement. Hein, on a l'éclairage de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 11 et au verset 25 où il est dit « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. » Je comprends dans ce verset qui est un petit peu obscur quand même, c'est qu'il y a une mise à part, Israël est mis de côté pour un temps, Israël n'est plus le serviteur de Dieu, par ses langues Israël va entendre qu'il n'est plus le serviteur de Dieu, ça sera justement le signe du parler en langue. Hein, il y a maintenant un ministère qui est confié aux nations et les nations vont faire connaître, parce que les chrétiens auront l'Esprit de Dieu en eux, vont faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle de la présence de Dieu dans les chrétiens, dans l'Église. Et donc, il y aura un moment où l'Église étant enlevée, eh bien Israël retrouvera sa vocation de nation qui sera le serviteur de Dieu.
Moi, je pensais que la division du feu sur la tête des apôtres, c'était une personnalisation. C'était chacun qui recevait l'Esprit. C'était pas quelque chose de collectif que tout le monde pouvait avoir en même temps. C'était reconnaître chacun qui recevait une flamme.
Alors il faut souligner au verset 3 que ce qui est divisé, ce qui est individualisé, si on lit le verset 3, ce sont les langues. Il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire que c'est la langue qui est un signe de feu, Et on voit à la suite du chapitre qu'ils parlent dans des langues différentes,
ah oui.
chacun.
Ah d'accord.
Et donc, ce qui est individualisé, c'est
la
ce qu'ils vont dire. Hein, la connaissance d'une langue pour parler à tous ceux qui, connaissent ces langues. Et ça, c'est un signe pour Israël. Hein, c'est ce qu'on retrouve en 1 Corinthiens 14, 21, où Paul va dire aux Corinthiens, ne soyez pas des enfants, comprenez. Il dit, c'est par d'autres langues que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne me comprendront pas.
Oui. Donc déjà quand même, premier point, ils sont réunis, ils prient, donc ils forment déjà une communauté. Ce sont des éléments essentiels à savoir aussi, la prière et la communauté. Et puis justement, vous le dites, ils sortent et ils se mettent à parler dans les différentes langues. Alors ça fait un peu tour de Babel. Alors on revient, ils se mettent tous à parler dans des langues étrangères. Alors le signe de cette manifestation, c'est qu'ils s'adressent à toutes les nations. Il faut que le message... ce n'est plus Israël qui est privilégié, mais ce sont les nations. Et disons, le message est pour tout le monde, c'est ça.
C'est presque le symétrique à Babel. Babel, c'était l'homme qui voulait se faire Dieu, mais là, c'est Dieu qui vient les hommes et qui donne aux hommes cette faculté de se parler les uns aux autres. Mais n'oublions pas que se parler, justement, est avant tout un signe de jugement envers Israël. Sinon, je pense que les hommes, les apôtres, auraient eu tout moyen de parler à ces gens qui étaient à Jérusalem et de trouver une langue qui soit une langue commune. Il ne faut pas oublier que le grec de l'époque s'appelle la koiné, c'est-à-dire la langue commune. Et en général, la langue l'araméen est la langue commerciale dans ces régions araméennes, mais le grec est vraiment la langue de l'Empire, bien que ce soit l'Empire romain. Mais le grec est la langue koiné, la langue commune.
Alors, on voit Pierre. C'est Pierre qui va donc annoncer la venue de l'Esprit et il s'affirme quand même comme le chef. On dit, il se lève, il prend la parole, il cite même Joël, il arrivera qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit. Alors, déjà, ce dernier jour, dans cette citation, peut amener à une confusion. Il arrivera qu'au dernier jour. S'il la cite, les gens dans le public disent, mais ça y est, on est arrivé au dernier jour ou pas?
C'est vrai que dans ce passage d'acte 2 du verset 14
jusqu'au
24, alors il y a quelque chose chez Pierre qui est un peu ambigu, mais si on lit le texte avec précision, on peut voir que l'ambiguïté tombe. Il dit, verset 18, « En ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, je montrerai des prodiges, et il dit... Verset 20, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la grande éclatante journée du Seigneur. Donc il y a une différence entre en ces jours-là et puis avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. On voit que c'est vrai qu'à dans une première lecture, on pourrait penser que tout est fini. Mais non, il y a quand même un moment où Dieu parle, mais un moment qui est plus tard où Dieu conclura les choses.
Oui. Alors ensuite, il demande à ce que chacun, fasse son acte de foi. Ça va être un geste personnel de chacun qui doit se convertir. Hein. Se repentir, il conseille, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et on reçoit le don de l'Esprit. Alors, est-ce que c'est deux conditions, d'abord, de se repentir et de se faire baptiser et recevoir le don de l'Esprit? C'est quoi, là? Vous pouvez apporter vos lumières?
Oui. L'acte essentiel, c'est la repentance.
Donc je reconnais mes fautes.
Voilà, la repentance en grec, ça se dit metanoia, qui veut dire littéralement le changement de compréhension. Je comprenais que, en fait, j'étais juif et que j'attendais le Messie et que Jésus ne me plaisait pas et que j'ai dit oui pour qu'il soit crucifié, mais finalement, je comprends que c'était le Messie. Et donc je change d'avis et je reconnais en lui le Sauveur et je vais voir ce qui se passe avec ça. C'est ça la repentance. Le baptême chrétien, c'est l'application du signe de mort et de résurrection. C'est donc l'acte extérieur d'une réalité intérieure. C'est l'acte extérieur, parce que je vais être immergé dans l'eau, qui correspond à une réalité intérieure qui est invisible, le fait de m'appliquer un signe de mort. De la même manière que matériellement, je vais être dans l'eau, alors moralement, je vais mettre sous l'eau et faire mourir, par la mort de Jésus-Christ, ce qui devait mourir en moi, c'est-à-dire le vieil homme, selon l'expression
oui.
de Romains 6, verset 6. Alors il me semble que le repentez-vous et que chacun soit baptisé, c'est le même événement. Bien sûr, il y a des gens qui se repentent et qui n'auront pas le temps d'être baptisés parce qu'ils mourront.
Oui.
Donc en fait, mais celui qui n'est pas baptisé, il ne lui manque rien, il s'est repenti et il a l'essentiel. Voilà, c'est pour moi la même chose, bien que ce soit deux choses bien différentes, mais on est baptisé quand on s'est repenti, ce qui montre un ordre logique pour le baptême, c'est-à-dire que je pense que doit être baptisé quelqu'un qui s'est repenti, et donc vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça montre dans cet événement de la repentance, dans cet événement de recevoir le Dieu qui sauve, et je pense que c'est le moment de dire que sur la terre entière, quiconque se tourne vers le Dieu sauveur, parce qu'il a la conscience d'être perdu, reçoit le Dieu qui sauve.
Oui.
Et alors, selon cette promesse, alors il reçoit aussi le don du Saint-Esprit.
Dans les Actes des Apôtres, on parle beaucoup et souvent de baptême. Alors pour éviter peut-être des confusions dans nos esprits, il faudrait faire la différence peut-être entre le baptême de Jean, le baptême de conversion et toute forme de baptême, si vous voulez, que l'on peut trouver
oui.
là.
Alors le baptême de Jean-Baptiste, il est présent en Acte 19 et on lit de manière extrêmement précise la signification de ce baptême. Paul est à Corinthe et il va à Éphèse, nous dit Acte 19, et il dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisé ?» Verset 3, et ils dirent « Du baptême de Jean. » Et Paul dit « Jean a baptisé du baptême de la repentance, voilà. disant au peuple qu'il croit en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Le baptême de Jean-Baptiste est donc le baptême qui prépare le peuple d'Israël à recevoir le Messie.
Initial.
C'est un baptême collectif.
Oui.
C'est pas un baptême individuel. C'est un baptême collectif, c'est le baptême du peuple, disant au peuple. Le baptême chrétien est un baptême individuel. Le baptême de Jean est un baptême collectif. C'est le baptême par lequel, finalement, le peuple d'Israël aurait pu montrer clairement
son désir
de recevoir le Messie.
Oui.
Alors que le baptême chrétien, le baptême d'eau, hein, ce qu'on appelle le baptême d'eau, est un baptême individuel, non pas qui montre à Dieu qu'on est prêt à recevoir le Messie, mais qui montre à Dieu qu'on est prêt justement à accepter la mort et la vie. La mort de ce qui était mauvais en nous et la vie que Dieu nous donne pour que nous vivions.
Alors en fait, le baptême d'eau, c'est la suite de se repentir.
C'est la suite du repentir, comme on l'a vu au chapitre 2.
Mais quand vous dites que c'est un baptême collectif, il n'y avait pas quand même tout Israël qui sont venus au bord du Jourdain se repentir.
Ils auraient dû. Hein, ils auraient dû. Et Jean était là pour Jean-Baptiste, Jean le baptiseur justement, était là pour baptiser le peuple. Alors on a quelques exemples de baptême. Au chapitre 8, on a donc l'eunuque, hein, cette personne importante de la cour.
C'est pas Philippe.
Voilà, de la cour de la reine de Candace. Et cette eunuque dit au verset 36, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» On voit là que le baptême est quelque chose de très simple, mais c'est une position personnelle. De la personne qui réalise ce que Dieu a fait pour elle et qui va être tout à fait conséquent.
Et alors, je pense que ce n'est pas gratuit que Philippe rencontre un eunuque qui demande le baptême. Il y a un symbole, cet homme qui n'est pas un homme véritable. C'est un signe d'ouverture.
C'est ça.
On baptise même les gens, parce que je crois que c'était vraiment des gens rejetés, si sexuellement ils avaient subi une ablation ou quelque chose de ce genre-là. Donc là, c'est un signe d'ouverture.
Tout à fait. C'est un signe.
Et un étranger aussi, je crois.
Et c'est un signe qui montre bien que ce n'est pas l'appartenance à l'Église.
Mmh.
Parce qu'il est baptisé, mais il retourne à la cour de la reine de Candace, en fait.
Oui.
Mais il est baptisé, il est En quelque sorte, il fait partie du cercle des baptisés, mais il est de ceux qui ont confessé la foi chrétienne.
Oui.
Et il a trouvé la foi chrétienne en lisant le livre d'Ésaïe,
Oui.
et il ne comprenait pas de qui le prophète parlait. Un autre exemple de baptême, c'est celui de Paul, hein, qu'on voit quand il le raconte dans un de ses récits. Et c'est Ananias qui rencontre Paul et qui va lui dire qu'il faut qu'il soit baptisé. Et il dit, on le voit au chapitre 22 et au verset 16, Lève-toi, sois baptisé, te lave de tes péchés en invoquant son nom. On
Et
voit
ça, c'est
vraiment.
après sa conversion sur le chemin de Damas.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le récit que Paul raconte quand il est devant une cour qui l'interroge. Et donc, ce qu'on entend dans ce récit, c'est cette grande précision, hein, que tardes-tu? Hein, lève-toi, sois baptisé. Donc, en fait, demande à être baptisé. La responsabilité, elle est à celui qui baptise, mais elle est aussi à celui qui demande à être baptisé. Donc, sois baptisé. Un baptiseur ne peut pas dire à quelqu'un qui est baptisé, je vais te baptiser. Il faut vraiment que celui qui est baptisé
Se
le fasse dans une
manifeste.
démarche personnelle et te lave de tes péchés en invoquant son nom. Le baptême, c'est, comme dit Pierre dans sa première lettre, chapitre 3, verset 21, c'est la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Par l'œuvre de Jésus-Christ, on réalise qu'on peut être lavé de nos péchés et par le baptême, on fait alors cette demande.
Alors nous assistons au fur et à mesure à des organisations pratiques aussi, la différenciation des missions, chacun va être chargé de faire quelque chose en particulier, on crée les diacres, il y a l'institution des services qui seront des signes de charité. Bon, il y a évidemment aussi des apôtres qui vont s'organiser, ils créent ce genre de services pour qu'eux puissent se consacrer à l'enseignement. Et ils ne choisissent pas, c'est Dieu toujours qui désigne la personne et qui va toujours l'inspirer. Justement, l'esprit, c'est déjà une chose importante pour les actes des apôtres. Cette église qui se fonde et qui crée des choses qui sont encore en vigueur.
C'est vrai que dans la lecture des Actes des Apôtres, c'est étonnant comme c'est l'Esprit Saint qui est le directeur.
Oui.
Quand au chapitre 5, il y a Ananias et Saphira, Pierre va leur dire, tu as menti à l'Esprit Saint. Hein, quand au chapitre 13, il faudra envoyer Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, c'est l'Esprit Saint qui intervient. Et on retrouve cette expression de manière assez fréquente. Et dans mettons, les 10 premiers chapitres, c'est intéressant aussi de voir. Comment les hommes sont souvent mentionnés comme étant pleins ou remplis d'esprit. Si je prends le cas d'Étienne, par exemple, vous avez parlé de la nomination des diacres, donc il fait partie de ce premier diacre au chapitre 6, dont il est dit qu'il soit plein de l'Esprit Saint. Verset 5, ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint. Mais si on regarde ce que fait Étienne, alors il est choisi comme étant plein de l'Esprit Saint, et dans son discours qui va lui valoir d'être lapidé, au chapitre 7, alors au chapitre 7 et au verset 55, il est dit, Mais Étienne, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu. Alors il me semble que cette expression, étant plein de l'Esprit Saint, montre bien qu'il nous est donné de pouvoir être plein de l'Esprit Saint. Mais que ce n'est pas quelque chose d'inconditionnel. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être une habitation de Dieu par l'Esprit, mais que suivant comment nous vivons à l'intérieur, alors nous lui laissons ou non de la place.
Voilà, oui, on lui fait de la place ou on ne lui en fait pas.
La plénitude est quelque chose d'irrégulier.
Mais voilà, mais c'est Paul, je crois, qui dit que nous sommes le temple de l'Esprit.
C'est ça.
Oui. Alors, Paul, pardon, Étienne, donc, pour en revenir à lui, donc, ça va être, je crois, certainement le premier martyr de la foi chrétienne, non?
Oui.
Bon, il sera suivi par Jacques et puis des anonymes aussi, très certainement. Donc, en fait, c'est la force du témoignage, et on ne craint pas de perdre, évidemment, sa vie pour sa foi et pour ses convictions. Il affronte les événements, Étienne.
Et je pense que cette force du témoignage, elle vient de là où Pierre insiste énormément dans ses premiers discours, elle vient de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas longtemps, je mangeais avec quelqu'un et je lui disais, mais ma foi chrétienne repose sur le fait que Jésus est mort et ressuscité, mais je l'entends dans l'histoire. Hein, j'entends que comment est-ce que l'Empire romain a pu devenir chrétien? Ben, c'est parce que Jésus est ressuscité. C'est pas parce que Jésus aurait dit, aime ton prochain comme toi-même, ou etc. Je crois qu'il y a eu un événement qui marque tellement, hein, que quelqu'un soit revenu des morts, que c'est un peu la marque du christianisme. Je pense aussi à cette expression de l'Épître aux Romains. Jésus déterminé fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts. Hein, c'est
Oui.
étonnant comme ça, le fait de revenir de la mort l'établit comme quelqu'un qui est vraiment fondamentalement différent des autres.
Parmi les missions qui sont confiées, il y a plusieurs pistes à toutes ces personnes qui sont là et qui sont dans les premiers de l'Église chrétienne. Alors, quelles sont les missions qui vont leur être confiées?
Eh bien, elles sont elles sont différentes suivant les cas. On entend par exemple en acte 2, versets 42 et à 44, des expressions qui les suggèrent. Il est question par exemple de la communion des apôtres. Alors les apôtres doivent comprendre quelque chose, ils ont une doctrine, et acte 2, 42, ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Les apôtres, ce sont les envoyés, ce sont les 12 que Jésus, qui étaient plus que 11, mais il y a Matthias qui a été nommé avec les
Oui.
11, et donc des gens qui ont été témoins oculaires, donc qui ont été avec Jésus, qui l'ont suivi, et qui ont entendu ses paroles, et qui vont comprendre quel est l'ensemble des choses qu'ils doivent comprendre, et qui vont le mettre en commun, la communion des apôtres. Il y a une sorte de fonction d'enseignement et de passage de relais à des gens qui ont été des témoins visuels. La communion des apôtres, à mon sens, cette communion des apôtres se fera jusqu'à ce que le canon des Écritures soit fait, jusqu'à ce que Paul, comme il le dit en Colossiens 1, 25, 26, 27, ait complété les Écritures, jusqu'à ce que la parole de Dieu puisse servir de communion des apôtres. Alors voilà un exemple
Un exemple.
de choses. Un deuxième exemple, c'est en acte 8, on a vu tout à l'heure que Philippe était évangéliste.
Oui.
Alors Philippe, lui, il n'avait pas la fonction de transmettre la connaissance, mais plutôt de transmettre l'événement, la connaissance de l'événement.
Ah
Hein, il
oui.
était évangéliste, il annonçait Jésus.
Oui.
Hein,
Puis
voilà.
il y avait quand même la possibilité, je crois, de chasser les démons.
Voilà, d'autres possibilités, tout
D'autres
à fait.
possibilités.
Une troisième chose que vous avez soulignée au chapitre 6 des Actes, c'est les diacres, ceux qui servent. Et donc on voit que l'organisation de l'Église n'est pas tellement une organisation structurée au niveau de, mettons, des responsabilités intellectuelles, mais
Oui.
très pratiques. Ils servaient aux tables.
Oui.
Et quand l'Église se retrouvait, alors il y avait des repas fraternels, et donc il y avait quelque chose d'organisé dans lequel les apôtres ne voulaient pas passer du temps.
Et puis je crois qu'aussi quand même, ils recevaient les aumônes et puis ils les redistribuaient, les
C'est
diacres.
ça,
Oui.
oui, tout à
Alors
fait.
il y a aussi des problèmes d'argent quand même dans les actes. Hein. Il y a Séphira et son mari qui ne font pas très correct. Puis ensuite, il y a, je crois, une collecte qui est organisée pour une communauté en difficulté. Donc le problème matériel quand même existe.
Il existe, oui. Il y a des pauvres, il y a des famines, hein, on le voit donc dans les passages que vous citez, et c'est vrai que finalement, fondamentalement, les choses n'ont guère changé. Hein, il y a aussi des problèmes financiers, mais et on peut voir aussi dans ce chapitre 6 des Actes qu'il y a des tensions entre les hellénistes et les Hébreux, donc
Oui.
entre les gentils et les juifs, qui sont tous des chrétiens. Mais en fait, la différence
Pas traité
de
de la même
source
façon matériellement.
montre qu'il y a des différences et on peut penser que peut-être que les Juifs s'enorgueillissent, d'une connaissance de la Torah, d'une connaissance des rites, hein, d'être circoncis peut-être, d'appartenir de manière un peu plus particulière au peuple de Dieu qui pourtant est mis de côté. Et,
oui.
Et donc il y a une sorte de légalisme, une sorte de glorification de loi qu'on a suivi, qu'on peut-être qu'on suit encore. Et c'est à noter que la première lettre que l'apôtre Paul écrit, semble-t-il, c'est la lettre aux Galates. Hein, il va, dans la succession du livre des Actes, il va l'écrire à la fin du chapitre 14, et juste avant ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem.
Oui, et disons, il y a d'autres épisodes avec Simon le magicien, qui veut acheter, entre guillemets, les pouvoirs que les apôtres ont, mais bon, ça c'est peut-être un peu secondaire.
C'est secondaire, mais on peut dire au passage qu'il semble bien que Simon le magicien soit le père des gnostiques. Et les gnostiques, aujourd'hui les rosicruciens, la gnose,
oui.
Le salut par le savoir. Il était magicien et la magie lui permettait d'attirer des foules et de montrer que sa connaissance lui servait à quelque chose.
Ben, hein, quand voilà, même, il reconnaît bien que ce n'était pas suffisant, puisqu'il va avoir des pouvoirs supplémentaires, puisqu'il demande à Pierre, je crois, de les lui vendre.
Tout à fait d'accord. c'est encore une fois saint Irénée qui dit que Simon le magicien, ici dans Acte 8, est le père des gnostiques, et qu'un Marc le magicien aurait vécu à Lyon et avait pris la succession,
ah oui,
en tout cas pour Lyon.
C'est une charge qui se transmettait.
Voilà.
Effectivement. Donc on arrive effectivement aussi, vous en avez parlé, il faut y revenir, à la conversion de Paul. Hein. On voit que Dieu peut tout, parce que cet homme qui persécutait les chrétiens, qui demandait certainement rien du tout à personne, qui avait une certaine autorité, il est sur son cheval à Damas où il va, je crois, faire arrêter des chrétiens, à mon avis, et là, il se passe quelque chose. Il est saisi, il tombe du cheval et il perd la vue. Alors là, c'est quand même très important. Disons qu'on voit que Dieu a un plan et choisit au moment où il faut la personne qu'il faut. Et puis, cette histoire de perdre la vue et puis de la retrouver après, une fois qu'il est accueilli à Damas, c'est aussi symbolique.
C'est pour ça que je trouve qu'il faut prendre beaucoup de recul sur la souffrance que pourrait nous occasionner le fait de voir des despotes, hein, comme Staline, Hitler, Kadhafi ou autres personnes, parce que Dieu parle à tous, et tous ceux qui, comme Paul, ont de l'énergie pour lui, alors il leur fait prendre conscience de qui il est. Je trouve ça très, très sécurisant, très rassurant.
Oui, effectivement. Et donc, Paul va être instruit et baptisé, et puis il va donc être l'apôtre que l'on connaît. Alors en fait, au fur et à mesure, on se rend compte par exemple que la vocation de Pierre va s'affirmer. Hein. C'est, disons, on le voit même déjà dans Marc, ça apparaît. Et il va être obligé aussi, à un moment donné, de faire des choix qui vont être peut-être un peu douloureux. Parce qu'il y a quand même des problèmes. Il y a les Juifs, on a parlé au début, les Juifs qui veulent respecter la loi, qui demandent aux Juifs qui sont convertis au christianisme de respecter toujours la loi et d'être toujours sous la loi. Il y a le problème de la circoncision. Alors, si un païen se fait effectivement baptiser et reconnaît la foi chrétienne, faut-il, alors qu'il n'en a rien à faire de la loi juive, être circoncis? Ça fait quand même pas mal de problèmes, et même parmi les apôtres, je crois que tout le monde n'est pas du même avis. Ce qui amènera au premier concile de Jérusalem.
Au chapitre 15 des Actes.
Oui.
Et donc on voit une des difficultés de Paul. Hein, il y a eu les difficultés de l'Église finalement la persécution, comme vous l'avez dit, avec les problèmes entre les Hébreux et les Hellénistes, les Grecs.
Mmh.
Il y a eu tout ce qu'il fallait organiser avec la nomination des diacres, hein, au chapitre 6. Des Actes, et maintenant au chapitre 15, on a cette difficulté de dogme. On a les Juifs qui disent il faut être circoncis, il faut respecter les rites, et donc il y a toute une réflexion à Antioche qui se fait sur le dogme. Voilà, je crois que c'est une bonne chose et qui montre que l'Église doit réfléchir, être capable de se remettre en question, toujours de se réformer, de s'écouter, de parler ensemble et d'arriver à des conclusions et de s'adapter à ce que nous disons.
Oui,
tout à fait.
Oui, et la circoncision était vraiment importante pour les Juifs. Et ils n'avaient pas conscience que la circoncision, c'était disons, la loi juive, mais qu'il s'était passé quand même un événement et qu'on était dans un nouveau monde.
C'est là où il y a cette grande tension dont on parlait au début, de ces judéo-chrétiens qui attendent le royaume et qui finalement continuent à mettre en œuvre des rites qui sont des rites pour le royaume, mais ils n'ont pas compris que ce n'est plus le moment de vivre ça. Ils n'ont pas compris que le royaume, c'est pour après.
Oui,
et hein? Ils sont coincés dans l'exercice de choses qui sont pour le royaume, mais Dieu a mis le royaume de côté jusqu'à ce que l'Église soit enlevée et que la question du royaume revienne.
Et ensuite, Pierre est jeté en prison, enfin plusieurs fois. Hein. Ils sont courageux parce qu'ils affrontent quand même la population, les autorités. Il y a les Juifs, il y a les Romains, mais ça ne leur fait pas peur. Ils s'affirment effectivement toujours. Et donc Pierre est jeté en prison et puis il est délivré miraculeusement. Alors bon, on pense qu'il y a sa prière personnelle, qu'il doit y avoir aussi la prière de la communauté. Alors quelle est la portée de cet événement, cette délivrance miraculeuse?
C'est une expérience fantastique pour la communauté. Hein, comme vous disiez, dans ce chapitre 12 du livre des Actes, on voit que la communauté est montrée comme étant en prière et faisait d'instantes prières à Dieu pour que Pierre soit délivré. Et il se trouve que c'était juste, comme nous le dit le verset 2 et 3, juste après la mort de Jacques, le frère de Jean.
Oui.
Et Jacques était une colonne, un pilier de l'église de Jérusalem. Et donc il y a des coups durs qui sont permis dans la main de Dieu et portés à la communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet événement, alors Dieu permet que Hérode fasse mourir Jacques, mais Dieu ne permet pas qu'il fasse mourir Pierre.
Mmh.
Et on voit quelque chose qui peut paraître injuste à la communauté. Pourquoi est-ce que Jacques est mort ?
Et pas Pierre.
Mais on voit aussi qu'il y a des choses que Dieu permet, il y a des choses que Dieu ne permet pas. Et ça, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Parce que même si Dieu permet que Jacques soit mort, peut-être que Jacques avait finalement fait ce qu'il fallait, il avait rempli son mandat, son ministère, et je trouve que c'est très encourageant de voir que notre Père Céleste a l'autorité, hein, qu'il a l'autorité sur les choses, et qu'il y a des choses qu'il contrôle, des choses qu'il ne contrôle pas. Une autre portée de ce récit d'Acte 12, c'est qu'il y a une grosse porte de fer, qui est la porte de la prison, qui s'ouvre d'elle-même.
Oui.
Mais par contre, il y a une petite porte de bois, qui est la porte de la maison dans laquelle les disciples étaient.
Où la servante ne veut pas ouvrir.
Et la servante ne veut pas ouvrir. Et ça montre en fait qu'il y a des choses que Dieu fait, mais qu'il y a des choses que nous sommes chargés de faire.
Oui, oui.
Voilà une autre idée intéressante.
Oui, la servante craignait, certainement, devait avoir peur.
Oui.
Oui, oui, oui. Oui, c'est frappant, effectivement, que c'est chez lui qu'il ne peut pas rentrer, en fait. Alors, Paul va commencer à faire la grande aventure de ses voyages. Alors, il a fait, je crois, 3 voyages au cours de sa vie. Et il tombe, il souffre, il se relève toujours, toujours la foi, découragé par ses communautés qu'il aime beaucoup. Ce sont ses enfants, bien entendu. Et donc, il crée les églises, alors Corinthe, Salamine, Chypre, Séleucie, je ne sais plus, Éphèse. Et donc, il souffre, je l'ai dit déjà, parfois de l'incompréhension de ces communautés. Et pour lui, c'est une souffrance pour lui. Et malgré qu'il annonce que la résurrection de Jésus-Christ était déjà annoncée dans les livres, que c'est exact, que c'est une histoire historique et vraie, et il arrive évidemment à en souffrir.
C'est la souffrance de l'apôtre. C'est la souffrance du fondateur d'église, c'est la souffrance de celui qui va sur un terrain vierge et qui doit déblayer les cailloux, qui doit labourer parce qu'il a été piétiné et que le terrain n'est pas utilisable. C'est la souffrance de celui qui finalement dérange, qui renverse des idées, par exemple à Éphèse, vous avez parlé d'Éphèse, il va montrer l'idolâtrie. Il va faire brûler les livres qui étaient des livres d'occultisme. Et donc il va, parce qu'il montrera quel est le vrai Dieu, il y a tout le commerce qui est pour la grande Diane et les statues qui sont vendues de Diane, tout
Et
le commerce qui va tomber,
les orfèvres
hein,
sont
qui va
effectivement pas
péricliter.
d'accord.
Voilà. Donc on comprend qu'il ait des adversaires. Et c'est vrai que dans notre Europe occidentale, qui est très très christianisée, alors on n'a pas le même problème que ce que Paul a pu avoir.
Oui, alors à Éphèse, il y a des problèmes avec les orfèvres qui vendaient des statues
De
de leur
Diane.
déesse. Donc on voit que le matérialisme existait déjà,
Eh oui,
hein,
eh oui.
entre le spirituel, la parole de Dieu et la vente de gadgets, ça pose problème.
Il y avait des
Mais
contraintes.
alors il arrive des tas de choses. Il est battu, je ne sais plus combien de fois, Paul. Et puis même à un moment donné, on les prend. Ils parlent tellement bien que la foule quand même accepte presque ce qu'ils disent, mais ils sont pris, je ne sais plus avec qui ceux qui t'accompagnaient, l'un pour Jupiter, l'autre pour Mercure. Enfin,
Absolument,
c'est vraiment du roman.
eh oui, c'est finalement la tradition trouve ça au chapitre 14 hein, des Actes, où Barnabas est appelé Jupiter au verset 12 et Paul est appelé Mercure parce que c'était Paul qui portait la parole. Et donc on voit comment le monde grec
Et
dans
Mercure,
cet
c'était le
empire,
messager.
voilà, cet empire hellénistique a donc influencé à la suite le monde romain a repris le panthéon des dieux et il y a quelque chose de très très présent chez ces hommes qui sont polythéistes et qui veulent reconnaître l'action puissante des dieux, oui.
Alors, il voyage beaucoup, il crée toujours des communautés. Il a un grand projet, c'est d'aller jusqu'en Espagne. Mais en Espagne, il n'y arrivera jamais.
Jamais.
Hein? Donc, entre-temps, il a un problème de naufrage. Il arrive, je crois, à Malte ou à Chypre, je ne sais plus. Et en fait, il revient à Jérusalem, même s'il y a, disons, un avertissement qui lui demande de parvenir à Jérusalem. Alors c'est quoi là? C'est un prophète qui se manifeste?
Oui, c'est le. Alors, il faut dire que. Donc, Paul a fait, comme vous l'avez dit, trois grands voyages.
Oui.
Dans ces trois voyages, il va d'abord dans la Turquie actuelle, ce qu'on appelle la Galatie, avec différentes parties. Et puis ensuite, il va aller dans ses deuxième et troisième voyages en Grèce, à Corinthe notamment, en Macédoine, à Philippe. Hein, Philippe
Il
est en.
reste longtemps, je crois, à
Il y
Corinthe,
reste 18 mois,
et
oui.
on peut
Oui,
voir
oui.
soi-disant la maison ou l'atelier où il a travaillé. Bon,
Voilà, voilà.
tradition.
Et donc, il y a un moment donné où Paul va dire au revoir à ces gens parce qu'il sait qu'il ne les reverra pas.
Et
Et donc,
c'est très émouvant.
c'est très émouvant, on trouve ça au chapitre 20. Et donc, quand il va retourner à Jérusalem, il y a un prophète qui s'appelle Agabus au chapitre 21 et qui avertit Paul que à Jérusalem, il faut pas qu'il y aille parce que il va se faire attraper. Et alors toute la problématique est de savoir est-ce que Paul a eu raison d'aller à Jérusalem ou pas.
Mais
Hein?
surtout que le prophète était envoyé par Dieu.
Il
Alors,
semble bien.
Paul a désobéi au message
Hein?
de Dieu, si ça pose problème là.
Personnellement, j'irais dans ce sens, oui.
Et
Ouais.
oui, et oui,
Mais
il est allé
ça montre bien
face.
aussi que finalement Dieu a utilisé Paul dans toute sa fougue. Hein, Paul a dit, voilà, ben, si je suis arrêté, je suis arrêté. Si je suis emprisonné, je suis emprisonné. Je parlerai.
Toujours.
Voilà.
Donc.
Et Paul avait déjà été, dans un sens, averti de manière positive quand, après ses 14 ans dans le désert dont il est question dans l'Épître aux Galates, à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean lui montrent que Pierre s'occupe des juifs et Paul doit s'occuper des non-juifs. Donc on comprend que la place de Paul n'est pas d'aller à Jérusalem. Paul n'est pas l'apôtre des juifs.
Oui,
Hein,
mais
voilà.
ça s'explique mieux parce qu'il n'avait pas subi la circoncision.
Paul.
Paul.
Si, si, il était juif. Il était juif, il était parisien, fils de parisien.
Tiens, c'est un rapprochement à faire.
Non, c'est possible, ça.
Oui, effectivement. Alors, il va donc aller à Rome, il est arrêté, mis en prison, où il écrit toujours des lettres, libéré, et puis, effectivement, c'est la fin brutale, et on ne sait pas très bien ce que deviennent Paul, ni Pierre d'ailleurs, d'après les actes.
Donc, quand Paul va à Rome, c'est son quatrième voyage, qui va se faire après toute une description de ses problèmes avec les autorités, avec Félix, avec Festus, qui sont des procureurs, ceux qui ont, je crois, succédé à Pilate dans cette terre de Canaan, en Israël. Et donc, il y a un moment donné, au chapitre 27 et 28, où Paul va prendre le bateau et va aller à Rome. C'est là où ils vont faire naufrage à Malte. Et Paul va à Rome et donc sera emprisonné pendant 2 ans. Et la fin du chapitre 28 montre ces 2 ans où finalement sa prison est quand même une prison relative. Il nous est dit au chapitre 28, verset 30, qu'il demeura 2 ans entiers dans un logement qu'il avait loué pour lui. Donc c'était quand même une prison, captivité relative, et qu'il recevait. Et il est dit, enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse, sans empêchement. Et donc on pense que c'est pendant ces 2 ans qu'il a écrit 4 lettres, qui sont Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. 4 lettres dans lesquelles il parle de liens ou de chaînes. Dans Éphésiens, il parle de ses chaînes, et dans Philippiens, Colossiens et Philémon, il parle de ses liens.
Oui, et donc de Pierre, on n'a plus de nouvelles.
Alors on n'a pas de nouvelles dans les actes, en a dans ses lettres. Il me semble que Pierre écrit, lui, entre 62 et 64, c'est-à-dire dans la période où Paul n'est pas à Rome, mais Pierre est à Rome, et Paul est en partie de Rome, comme il le dit en laissant Timothée à Éphèse et puis Tite en Crète, donc Paul reprend ses voyages. Alors Pierre est à Rome, et à mon sens, il écrit notamment pour encourager les judéo-chrétiens qui sont à Rome, parce qu'avec Néron, puisque Néron a régné de 54 à 68. Et donc 64-68, c'est la période folle de Néron, dans lequel il commence à persécuter les chrétiens. Et Pierre est juste avant cette période, et Pierre va leur dire dans sa première lettre, bien-aimé, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui va s'abattre sur vous. Oui. Donc il écrit pour encourager.
Et il ne reviendra pas en Israël.
Et il sera donc crucifié la tête en bas, aux alentours de 67.
Ça, c'est une autre histoire qui ne concerne pas les actes des apôtres. Alors, il y a beaucoup de personnages qui interviennent. Bon, il y a les apôtres, Matthias qui les a rejoints. Il y a aussi d'autres personnages, des disciples qui ne sont pas apôtres, mais qui interviennent. Et il y a aussi une femme, quand même. Enfin, il y a Saphira, mais enfin, bon, d'accord. Mais il y a aussi, disons, une dame qui est Lydie.
La marchande de pourpre à Philippe.
Voilà. Oui. Et qui avait les moyens.
Et qui avait les moyens de recevoir, d'agir, qui faisait beaucoup de choses. Et c'est vrai que lire ce livre des actes, ça motive pour travailler pour le Seigneur, pour avoir des idées aussi, pour savoir comment se placer par rapport à l'Église ou par rapport à l'endroit où on vit. C'est vrai que c'est un livre qui est très, très, très encourageant.
Alors, je donne ma petite conclusion et vous reprendrez la suite. La vôtre. Alors on voit que dans le livre des apôtres, il y a un souci d'organisation de l'Église, le développement des dons, des ministères, dans chacune de cette question particulière. Il y a surtout l'évangélisation, le poids de la doctrine à peut-être évidemment à épurer ou à mettre en forme, et cette bonne parole à annoncer, et souvent ça se fait évidemment par le courage et la foi des apôtres et jusqu'aux martyrs. Alors ça, c'était ma conclusion sur les actes des apôtres. Nous attendons la vôtre.
Eh bien, moi, je vais reprendre quelque chose que vous avez dit un peu en introduction. C'est que le livre des actes des apôtres est un livre un peu de l'histoire de l'Église, alors que les épîtres sont plutôt des livres dogmatiques qui disent à l'Église comment il faut qu'elle comprenne les choses. Et donc, je crois qu'il faut lire le livre des actes comme quelque chose de très complémentaire des épîtres. On trouve dans les épîtres comment comprendre, et on trouve dans les actes, on voit comment est-ce que cette compréhension se met en œuvre. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez aussi dit que le livre des actes des apôtres est un livre document. un ensemble de documents qui nous sont donnés. Et donc, regardons l'Église être ensemble, l'Église avoir des difficultés. Par exemple, à la fin du premier voyage missionnaire de Paul, on voit que Paul et Barnabas ne s'entendent plus. Alors, c'est vraiment
C'est
dommage. Hein, mais il faut peut-être comprendre pourquoi est-ce que Paul ne voulait pas que quelqu'un qui les avait abandonnés, hein, comme Jean, hein, qui était appelé Marc, et qui est ce Marc qui a été secrétaire de Pierre,
Le
d'ailleurs,
Pierre, oui.
quand ils étaient passés vers Antioche de Pisidie, avec le Taurus, cette montagne élevée,
Oui.
il semble que c'était au printemps, je crois, il y avait de la neige, et donc Jean, qui était appelé Marc, avait été découragé, et Barnabas l'avait repris avec lui. Voilà, c'est intéressant de voir comment peut-être Paul était quelqu'un de pas trop commode, mais que Paul, après, en 2 Timothée, va dire à Timothée, va lui parler de Marc.
Oui.
Hein? Et donc c'est touchant de voir que les choses peuvent se raccommoder, qu'on peut voilà, lire la vie de l'Église. Il ne faut pas dire que l'Église ne va pas bien parce que les gens ne s'entendent pas. Non. Il faut voir que les gens ne s'entendent pas, ben, l'entendre et puis essayer de trouver des manières de laisser décanter les choses ou de vivre les choses spirituellement dans l'Esprit de Dieu, dans la plénitude de l'Esprit, comme ce livre des Actes nous le montre.
Merci.